Cette semaine, un entretien publié par Le Figaro a retenu mon attention. Il s'agit d'un entretien avec la professeure Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre, qui nous alerte sur le fait que les adolescents d'aujourd'hui n'ont jamais été aussi seuls.
Vue de ma fenêtre, Étienne Dallaire.
La solitude dans nos sociétés. C'est un phénomène paradoxal, puisque nous sommes apparemment plongés dans une société de la communication. Nous sommes envahis de tous côtés et à toute heure par la communication. Et puis non seulement cela, mais nous avons nous-mêmes, maintenant possédant des outils de communication extrêmement performants, attrapé le virus. Nous avons donc presque le monde dans notre main grâce aux nouvelles technologies de communication. Mais nous devenons des espèces d'éponges à buzz, des éponges à réseaux sociaux. Et nous devenons plus ou moins addicts. Nous recherchons sans cesse une nouvelle, une info, une vidéo. Et nous sommes pris dans les mailles du filet, je dirais. Car tout cela, est-ce vraiment de la communication ou de l'intoxication? Nous sommes dans une communication de surface, très superficielle. Et pourtant, paradoxalement, il semble bien que nous soyons entrés aussi dans un monde de la solitude. Une solitude grandissante, que ce soit chez les personnes âgées, nous nous pencherons sur le rapport annuel des petits frères des pauvres sur ce sujet, que ce soit avec les adolescents, et nous reviendrons sur cet entretien avec Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre. Je voudrais laisser la parole à un sociologue, David Le Breton. Il nous dit la chose suivante. Nous sommes dans une société de l'hyper-individualisation du lien social dans laquelle tout le monde vit côte à côte. Je parle d'archipélisation de la planète. Il faut comprendre une sorte d'émiettement à l'infini, une segmentation du monde. Dans les familles, les gens dînent ensemble, le père, la mère, les enfants, chacun derrière un écran. C'est un effet pervers de la technique. Les technologies rendent acceptables des choses qui auraient été intolérables il y a quelques années. L'impensable est devenu le réel, car les outils numériques l'ont rendu possible. On peut parler alors de solitude contemporaine. Ces outils de communication ne sont pas des outils, j'allais dire, communautaires. Ce sont des outils individuels et très individuels. Donc, si chacun fait usage de cet outil de communication individuel, forcément, cet outil soi-disant de communication va le couper des autres. Vous avez tous vu, comme moi, des tables entières de restaurants où les gens attablés sont chacun sur leur téléphone. Solitude contemporaine donc. Mais David Le Breton apporte une note nouvelle et que je trouve intéressante. Mais, dit-il, il faut distinguer la solitude de l'isolement, qui caractérise mieux la société d'aujourd'hui. La solitude peut être choisie, elle permet même de préserver certains secrets. C'est la solitude du promeneur dans la forêt. Dans l'isolement qui se ressent physiquement dans la vie, où les gens se croisent mais ne se regardent plus, au contraire, il y a de la contrainte. On reste soumis au regard des autres. Avec l'isolement, on n'est pas seul parce qu'il n'y a personne autour de nous. On est seul malgré la présence des autres qui deviennent des étrangers et pour qui nous passons totalement inaperçus. La solitude peut être choisie, même comme un art de vivre, permettant peut-être aussi de temps en temps de pouvoir souffler, se retrouver soi-même. L'isolement, comme le dit David Le Breton, est une contrainte qui engendre une souffrance. La solitude de grandissante dans nos sociétés atteint toutes les générations et toutes les couches sociales. La pédopsychiatre Marie-Rose Moreau, qui est chef de service de la maison des adolescents à l'hôpital Cochin, accueille des jeunes à bout de souffle. De ceux qui ne se lèvent plus, ne mangent plus, n'y croient plus. Et d'autres perdus, anxieux, saturés d'informations sombres. Selon la Fédération hospitalière de France, les consultations de pédopsychiatrie ont bondi en 2024 avec une demande supérieure de 32% à celle attendue. Alors, que s'est-il passé ces dernières années pour en arriver là ? La docteure Marie-Rose Moreau estime que le phénomène s'est installé lentement il y a une quinzaine d'années, sur fond de peur collective, d'inégalité et de solitude. Beaucoup d'ados disent qu'ils ne connaissent même pas tous les élèves de leur classe. Les emplois du temps sont éclatés, les différentes options et stratégies individuelles séparent les ados les uns des autres. Au collège et au lycée, les ados perdent la sociabilité qu'ils avaient au primaire. Pour sortir de cette solitude, il faut se réapproprier des lieux et faire ensemble, du sport, du théâtre, une activité dans une association, etc. Et elle reconnaît que le téléphone, les réseaux sociaux ne sont pas les causes premières de la souffrance psychique, mais ils l'amplifient. Quelles en sont les causes selon elle ? La précarité, le mal logement, les inégalités, mais aussi une atmosphère collective de peur et d'incertitude. Actuellement, deux réalités sont à différencier. Il y a d'une part une véritable hausse des souffrances psychiques, angoisse, dépression, perte du goût de vivre, et d'autre part un sentiment généralisé de mal-être plus diffus, nourri par l'idée d'un avenir sombre. À ses yeux, le Covid a été un révélateur d'une crise, un accélérateur de crise, mais qui avait commencé bien avant, entre 2010 et 2015. Je ne suis pas psychologue, loin de là, et encore moins psychiatre. Pourtant, il me semble personnellement que, dans ces analyses fort justes de Marie-Rose Moreau, il manque un élément essentiel dans tout cela, qui est celui de la famille. Elle ne parle pas du rôle de la famille aux côtés des adolescents. Alors c'est vrai que l'adolescence est un âge difficile, y compris et surtout par rapport aux membres de sa famille. L'adolescence, si j'ai bien compris, est bien une période où l'identité de la personne se forme, se forge, et parfois elle se forge dans des flous, dans des incertitudes, dans des insécurités. Néanmoins, la présence de la famille est un élément essentiel. D'abord parce que l'adolescent y vit, il y mange, il y dort. C'est sa structure de base, c'est son port d'attache, c'est son point de référence. Encore faut-il que les liens et que ce qui constitue, je dirais, un peu les lois internes de la famille soient suffisamment précises pour être de vrais points de repère sur lesquels l'adolescent puisse s'appuyer ou tout au moins s'y référer. Il nous faut maintenant dire un mot de la solitude grandissante chez les aînés. Il y a quelques semaines est paru le troisième baromètre de l'isolement des personnes âgées en France. Depuis 3 ans, les petits frères des pauvres publient donc un rapport sur une problématique vécue par nos aînés isolés. Leur étude révèle que 4,6 millions de Français de 60 ans et plus ressentent de la solitude. 3 200 000 sont même en risque d'isolement relationnel, c'est-à-dire qu'ils peuvent passer des journées entières sans parler à personne. Et près de 530 000 vivent en situation de mort sociale, c'est-à-dire sans aucun contact ni avec la famille, ni avec des amis, ni avec des voisins. Il y a également des différences de solitude, d'isolement, suivant le milieu de vie. Par exemple, en milieu urbain, dans les quartiers prioritaires ou dans les petites agglomérations, la solitude est plus ressentie qu'en zone rurale. Mais les facteurs d'isolement ne sont pas non plus les mêmes. À la ville, en zone urbaine, l'isolement est aggravé par un manque de solidarité, par une absence de relation avec le voisinage, alors qu'à la campagne, les solidarités sont souvent plus fortes, mais c'est le manque de services du quotidien, le manque de transport qui renforce l'isolement. Alors je voudrais terminer par une bonne nouvelle. Une association qui s'appelle Paris en compagnie met en relation via une application des bénévoles de tous âges et des personnes âgées qui vivent l'isolement. Eh bien, ces bénévoles vont les accompagner chaque semaine au parc, au théâtre ou au cinéma. L'association, qui compte près de 400 bénévoles pour plus de 2000 aînés inscrits, réalise ainsi chaque mois environ 350 accompagnements. Une belle initiative à porter à l'actif de la ville de Paris et des petits frères des pauvres.
Vue de ma fenêtre, Étienne Dallaire.